Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la maladie de Wilson et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Dominique Debré. Professeur Debré, bonjour.
Bonjour.
Professeur Debré, vous êtes pédiatre, spécialisé en hépatologie pédiatrique, praticien hospitalier et professeur associé au sein de l'unité d'hépatologie pédiatrique et de transplantation de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Vous êtes également responsable du centre de référence de la maladie de Wilson et autres maladies rares liées au cuivre, le centre de compétences de l'hôpital Necker. Alors, professeur Debré, nous allons aborder la maladie de Wilson principalement chez l'enfant aujourd'hui. Et pour débuter notre entretien, quelles sont les spécificités de cette maladie de Wilson chez l'enfant et quels en sont les enjeux pour le praticien ?
Alors, je voudrais rappeler brièvement ce qu'est la maladie de Wilson. Hein. C'est une maladie génétique, qui est une maladie rare, mais génétique de transmission autosomique récessive, qui est liée un défaut d'excrétion du cuivre dans la bile, conséquence de mutation d'un gène qu'on appelle le gène ATP7B, qui code une protéine de transport du cuivre. Et donc, on comprend ainsi que ce défaut de transport va être à l'origine d'une accumulation progressive du cuivre qui est apportée par l'alimentation et donc qui va se manifester dès la diversification de l'alimentation chez le nourrisson à partir de l'âge de 4 à 6 mois. Initialement, le cuivre s'accumule dans le foie de façon très lentement progressive et effectivement, les manifestations chez l'enfant sont essentiellement des manifestations hépatiques. Et en cas d'accumulation importante, le cuivre va se déposer dans d'autres organes à l'origine de manifestations extra-hépatiques, notamment des manifestations neurologiques qu'on voit essentiellement chez le grand enfant ou surtout l'adulte jeune. La surcharge en cuivre dans le foie, donc elle débute très tôt dans la vie et elle va évoluer de façon lentement progressive à l'origine de lésions du foie qui initialement peuvent être une surcharge uniquement en graisse dans le foie, a priori réversible, associée ou non à une inflammation du foie qui peut mimer une hépatite chronique et surtout au développement d'une fibrose qui celle-ci n'est pas réversible et qui peut progresser vers la cirrhose du foie en général après l'âge de 10 ans. Donc, très clairement, chez l'enfant, les formes hépatiques sont le mode de présentation habituel. Les formes ou atteintes neurologiques sont beaucoup plus rares. Les enjeux, c'est le diagnostic précoce. Les symptômes apparaissent en général tardivement, au-delà de l'âge de 10 ans, lorsque la surcharge en cuivre est déjà importante, donc par des manifestations hépatiques, plus rarement neurologiques. L'important, c'est que la maladie de Wilson est une maladie que l'on peut traiter. Le traitement de la maladie de Wilson est d'autant plus important. Il s'agit d'un traitement à vie qui va permettre l'élimination du cuivre dans les urines lorsqu'il s'agit d'un traitement chélateur du cuivre ou dans les selles lorsqu'on utilise le zinc et qui est d'autant plus efficace qu'il est administré à un stade précoce de la maladie. D'où l'importance d'un diagnostic précoce de la maladie avant l'apparition des premiers symptômes.
Alors justement, quels sont ces signes d'alerte qui doivent faire suspecter la maladie chez l'enfant et l'adresser au praticien pour le dépistage ?
Comme je le disais précédemment, le cuivre se dépose initialement dans le foie et donc les signes d'alerte sont avant tout des signes témoignant d'une atteinte du foie. Alors, la surcharge en cuivre est initialement responsable d'anomalies du bilan hépatique, d'une augmentation des transaminases qui devient manifeste dès l'âge de 2 ans. Autrement dit, c'est le principal signe d'alerte. Toute augmentation des transaminases chez l'enfant, pour lesquelles on n'a pas reconnu de cause virale évidente, doit faire l'objet d'une recherche d'une maladie de Wilson. Quant aux symptômes, ils apparaissent, comme je le disais, beaucoup plus tardivement, en général en moyenne vers l'âge de 10 ans. Ces symptômes sont extrêmement variés. Il peut s'agir, outre l'augmentation des transaminases, d'un ictère, d'une anémie hémolytique, d'une augmentation du volume du foie, voire même des signes déjà avancés de cirrhose, une décompensation œdémato-ascitique, des signes d'hypertension portale. Parfois, c'est la découverte d'une insuffisance hépatocellulaire, parfois sur un mode extrêmement aigu, compliqué d'encéphalopathie hépatique. Plus rarement, des signes neurologiques qu'on voit essentiellement chez l'adulte, mais qui ont été rapportés chez l'enfant à partir de l'âge de 7 ans. Tous ces signes doivent faire évoquer la possibilité d'une maladie de Wilson. Le seul garant d'un diagnostic précoce, c'est d'évoquer la maladie de Wilson à tout âge devant tout symptôme, qu'il soit hépatique, neurologique, hématologique ou rénal. Donc, autrement dit, évoquer la maladie de Wilson devant toute augmentation des transaminases de cause non virale, quelle que soit l'importance de celle-ci et à partir de l'âge de 2 ans, et puis penser à réaliser un dosage de transaminase dans toutes les autres circonstances, dès lors qu'on découvre une augmentation du volume du foie, dès lors qu'on a une suspicion de cirrhose, dès lors qu'il y a une décompensation d'hématoacétie, dès lors qu'on découvre une anémie hémolytique, ou devant, et là c'est important pour nos collègues neuropédiatres, devant des signes neurologiques qui peuvent être exprimé uniquement par micrographie ou des tremblements, ou voire même des signes plus avancés, dystonie, syndrome parkinsonien, hypercialorée, troubles de l'élocution et même des difficultés scolaires.
Et en termes de diagnostic, cette fois, professeur Debré, comment établir le diagnostic chez l'enfant?
Alors, le diagnostic, il n'est pas si simple. Il est habituellement porté, évidemment, sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques, radiologique, et de façon tout à fait exceptionnelle, on peut aller jusqu'à la réalisation d'une biopsie hépatique. C'est avant tout l'étude du métabolisme du cuivre qui va apporter des arguments en faveur d'une maladie de Wilson. Et donc, classiquement, la maladie de Wilson se caractérise par une diminution de la protéine de transport qu'on appelle la céruloplasmine, une diminution du cuivre total sérique. Alors là, c'est assez piégeant, hein, parce qu'on pense toujours que comme la maladie de Wilson est une maladie de surcharge et on s'attend à un dosage sérique du cuivre élevé, eh bien non, il est habituellement diminué en lien avec la baisse du taux de céruloplasmine qui est son transporteur plasmatique. Et puis également, troisième signe, une augmentation du cuivre urinaire. Alors tout ça est extrêmement théorique car chez l'enfant, et notamment le jeune enfant, puisqu'on veut faire un diagnostic précoce, la surcharge en cuivre n'est pas encore massive. Et bien souvent, on n'a pas d'augmentation du cuivre urinaire. D'autre part, on sait très bien qu'il y a des formes de la maladie avec un dosage de céruloplasmine normal. Donc, un dosage normal n'élimine pas la possibilité d'une maladie de Wilson. Donc, finalement, ces éléments, donc cette triade classique hypocéruloplasminémie, hypocuprinie, hypercuprurie, est quelque chose qu'on voit peu en pédiatrie. Le laboratoire de référence de la Rivoisière a mis au point il y a 10 ans une technique qui permet le dosage du cuivre libre sanguin, qu'on appelle également le cuivre échangeable non lié à la céruloplasmine. Et ils ont très très bien montré, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, en collaboration également avec l'équipe du centre de référence de Lyon, que l'augmentation du rapport du cuivre libre sérique, c'est-à-dire du cuivre échangeable sur le cuivre total, qui inclut le cuivre lié à la céruloplasmine, s'est avéré un excellent marqueur biologique avec une spécificité et sensibilité voisine de 100%. Un rapport qu'on appelle le REC, pour ce rapport cuivre échangeable sur cuivre total, ratio, c'est un ratio, et bien lorsqu'il est supérieur à 15%, pour nous, est signe de la maladie de Wilson. D'autre part, la génétique, l'étude moléculaire du gène s'avère un outil extrêmement puissant puisque les techniques actuellement de biologie moléculaire permettent le diagnostic moléculaire dans plus de 98% des cas.
Et en termes d'impact sur le foie cette fois-ci, quel est l'impact de la maladie de Wilson sur le foie en absence de traitement approprié?
Là, évidemment, ça peut être tout à fait dramatique. Dramatique sur le plan hépatique et puis surtout, secondairement, sur le plan neurologique. Hein. Je pense qu'il faut bien se souvenir que le cuivre se dépose dans le foie, puis le relargage de ce cuivre hépatique va aller se déposer, notamment au niveau du système nerveux central, et là, être à l'origine de lésions irréversibles. Au niveau du foie, l'accumulation du cuivre crée finalement une hépatite toxique et va détruire, faire nécroser les cellules du foie, d'où la cytolyse chronique. le développement d'une fibrose est inéluctable qui va progresser jusqu'à la cirrhose qui correspond au stade le plus évolué. Et c'est à ce stade qu'apparaissent des complications qui sont souvent des circonstances de découverte de la maladie chez l'adolescent, qui sont des complications de l'hypertension portale avec de l'ascite, des œdèmes, une grosse rate et puis surtout une insuffisance hépatocellulaire. C'est au stade ultime de cette cirrhose décompensée. Malheureusement, le traitement par chélateur instauré en urgence ne permet pas toujours la réversibilité et le seul traitement est alors la transplantation hépatique. Et puis, il y a une deuxième circonstance extrêmement aiguë de la maladie qui est l'hépatite fulminante liée à la maladie de Wilson qui peut se présenter de façon extrêmement aiguë par une nécrose massive du foie compliqué d'une encéphalopathie hépatique et d'une insuffisance hépatique aiguë majeure. À ce stade, la seule chance de survie reste la transplantation hépatique. Donc, voilà, les conséquences en l'absence de traitement au niveau hépatique, malheureusement, peuvent être dramatiques et conduire à la transplantation hépatique, qui toutefois donne de bons résultats car la maladie ne récidive pas sur le greffon. Enfin, à ce moment-là, il y a les conséquences et complications liées à la greffe.
Alors, pour conclure notre entretien, professeur Debré, est-ce qu'on peut effectuer un dépistage, vous avez parlé de dépistage précoce, avant que la maladie ne se déclare?
Ah, c'est le point essentiel. Déjà, faire un dépistage, c'est avant tout dépister la maladie de Wilson dans l'entourage d'un patient lui-même porteur de la maladie. Toute la famille est concernée. Donc, le dépistage doit porter sur tous les membres de la famille, la fratrie d'un enfant chez qui on vient de faire le diagnostic, les enfants d'un parent ayant lui-même la maladie, les parents d'un enfant ayant lui-même la maladie et qui serait en apparence asymptomatique, les oncles, les tantes, les neveux. Dans tous les cas, il faut dépister sur le plan moléculaire, on a fait des études génétiques, des cas de possible de maladie de Wilson dans l'entourage. Le dépistage néonatal systématique n'est pas encore d'actualité en France. Il se fait dans certains pays. Il n'est pas exclu que dans l'avenir, on soit amené à faire des études génétiques systématiques. Ça reste éthiquement questionnable puisque la maladie se manifeste très, très progressivement qu'à partir de l'âge de 2 ans et qu'on ne traiterait pas en tout cas un nouveau-né. Mais très certainement, faire le dépistage de la famille au complet est le point essentiel. Et puis, voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut aussi dépister systématiquement cette maladie devant toute augmentation des transaminases. Et je sais que c'est un symptôme extrêmement fréquent en pédiatrie.
Eh bien, merci mille fois, professeur Debré, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la maladie de Wilson chez l'enfant. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.